Vous écoutez Vague FM.
Vous écoutez Vague FM.
Il est 18h.
Passion.
Hé, hey, c'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti cinéma.
Graffiti cinéma.
Bonsoir à tous, c'est Thomas, bienvenue dans Graffiti Cinéma, la seule émission de cinéma du Loiret au monde qui ne parlera pas des élections. Ah mince, trop tard, on en a parlé, bon maintenant c'est fait, on n'en parlera plus. Une émission de Graffiti Cinéma sur Vague FM qui parle de tous les cinémas, pour tout le monde, avec tout le monde, et c'est déjà beaucoup. Alors comme vous pouvez l'entendre, le chef n'est pas là. Alors ce soir, les souris vont danser. Calez-vous bien au fond de votre fauteuil. Regardez la route quand même si vous conduisez. Rajoutez un peu de mousse si vous nous écoutez dans votre bain. Graffiti Cinéma, c'est parti. Ça vient de loin. Alors, une émission baroque ce soir, où on parlera de la programmation de Sans Soleil, l'association orléanaise qui met en avant les films documentaires, alors des films trop peu vus au cinéma, et même sur les grandes chaînes publiques. Nous aurons le retour des chroniqueurs de la web radio du Collège Victor Hugo de Puiseaux. Puiseaux en force! Ça va les filles?
Oui.
Alors, Graziella vous présentera un requin passablement énervé et légèrement soupolé. Fiona nous dira si pour Leonardo DiCaprio il est plus difficile de lever la tête que de traverser l'Atlantique. Ponctué également des chroniques de Tristan sur un film qui a 25 ans cette année, on va le découvrir plus tard, et Émilie si on a le temps, perdue dans la jungle. Tout cela sous la houlette de notre chef d'orchestre Sullivan. Salut Sullivan.
Salut à tous, bonjour.
Ça va?
Impeccable.
Bah alors c'est parti.
En voiture Sullivan?
En voiture Sullivan. Alors ce soir, donc avant les requins irritables et le ciel qui nous tombe sur la tête et autres joyeusetés, Romaric, notre chef bien-aimé, est parti à la rencontre de Flora Jouvencel, chargée de programmation à Sans Soleil. Alors Sans Soleil, vous allez me dire c'est quoi? Sans Soleil, c'est une association créée il y a plus de 20 ans dans le but de réunir des réalisateurs, des cinéphiles de tous horizons pour faire connaître et diffuser des films documentaires. Un genre de film, comme je l'ai dit tout à l'heure, peu visible au cinéma et sur les grandes chaînes publiques. Donc là, on va donc s'intéresser à la programmation de la fin de saison entre demain et jusqu'au mois de septembre. Romaric, c'est à toi.
Et donc nous sommes au 108, directement dans les locaux de Sans Soleil, une asso orléanaise alors qui est très connue chez nous évidemment, mais on va y mettre en avant avec Flora Jouvencel, la chargée de programmation, votre justement vos actualités, vos prochaines projets jusqu'au mois de septembre. On va parcourir ça en un petit quart d'heure avec toi. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors merci beaucoup d'accepter notre invitation, surtout qu'on vient chez vous, donc c'est plutôt pratique, on s'invite chez les gens pour participer à ça et puis également mettre en avant ces projections qui sont vraiment importantes parce que vous soyez d'Orléans ou d'ailleurs, ce sont vraiment des références et des films qu'on a souvent du mal à trouver en DVD ou en projection et là pour le coup on va avoir des raretés qu'on va directement mettre en avant, évidemment à commencer par les plus proches hein, dans les prochaines semaines, c'est qu'on va avoir sur Orléans.
Eh ben, justement, la prochaine projection, ce sera pas à Orléans même, mais à Tivernon. C'est une projection, on se déplace à la ferme d'Abonville. Et on va projeter deux films qui parlent de l'agriculture moderne, donc toujours des documentaires d'auteurs. Un film qui date de 41, qui est un film de Flaherty, qui s'appelle The Land, et donc qui explore ce que l'agriculture moderne en fait a fait au paysage américain. Donc voilà, il a sillonné les routes avec sa femme à l'époque, et il montre des paysages absolument désertiques et l'exode que cette agriculture a entraîné. Et puis à la suite, donc ces deux courts-métrages, et à la suite de ce film-là, il y a un film récent de Pierre Creton, qui est un réalisateur contemporain, qui est lui-même agriculteur, et donc là, qui fait un film sur la culture du lin. Et c'est un film assez particulier, enfin qui est tout en silence en fait. Il y a pas de dialogue et qui est sur le rythme des machines, le rythme de la vie des hommes. Et par ça, c'est on peut y voir quand même une réflexion autour de l'agriculture moderne qu'on connaît aujourd'hui.
Ça marche. Alors là, pour nos auditeurs, Thivenon, moi je découvre la ville. Hein, c'est surprenant, mais c'est proche. On est banlieue orléanaise là, du coup.
On est, je crois, à 40-45 minutes d'Orléans. D'accord. Dans le nord, dans la Beauce.
D'accord, oui, en pleine Beauce, c'est cool.
Ouais.
Ok. Bon, bah, c'est le grenier, un des greniers de l'Europe, hein, parce qu'il y en a plusieurs, dont un, malheureusement, qui est touché par l'invasion russe en ce moment. Et c'est vrai que là, pour le coup, ce monde agricole a été énormément récupéré par la fiction. On a vu que c'est au niveau des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes, le cinéma français est beaucoup moins frileux ces derniers temps, notamment avec Guillaume Canet, qui s'est beaucoup engagé sur cette cause-là. Le cinéma documentaire, depuis les années 30-40, dit énormément de choses, hein, et on est en plein exode rural. Donc, une notion assez vague qu'on découvre au collège, qui là, prend corps directement avec ces images-là. Donc, c'est évidemment très intéressant. Pour tous ceux qui nous écoutent, alors on rappelle donc le titre du film, hein, ça c'est très important pour cette première projo.
C'est The Land, le premier film, et le second c'est L'Avenir le dira.
D'accord, et là on se retrouve à quelle date du coup ?
Le 30 avril. Et c'est, les portes sont ouvertes à partir de 18h, les projections vont commencer à 19h30, et à la suite des projections, il y a un concert de Hiroki et Mirei Terashima, qui sont des... Hiroki, il est guitariste et luthiste, japonais, et donc c'est une musique aux sonorités orientales, et donc avec sa femme il nous propose un concert pour qu'il y ait un moment festif aussi à la suite de ces projections. Il y aura aussi un débat évidemment autour des films, parce que on pense qu'il va y avoir pas mal de gens issus du monde agricole, et donc c'est aussi histoire de confronter avec leurs pratiques, ce qu'ils vivent au quotidien, et de pouvoir débattre plus largement des films et de la vie agricole.
Et puis on va rappeler pour tous les films qu'on va citer pendant cet entretien, qu'évidemment toutes les références on les retrouve sur votre site et sur votre page Facebook éponyme, hein, donc Sans Soleil, évidemment, ça c'est très important pour nous suivre. Alors donc ça c'était la première projection. Dans le restant de l'année, avril, mai, on va parcourir, on va aller jusqu'à vers l'été. À quoi on doit s'attendre également?
Alors en mai, on a une masterclass avec un historien du cinéma qui s'appelle Federico Rossin, qui est très connu dans le monde du documentaire, et qui vient ici nous présenter un film qu'il a redécouvert, qui s'appelle Journal d'un maître d'école, qui est un film italien en fait, qui a été fait à l'époque en 76 avec la télévision italienne La Rai. Et c'est un film super beau sur l'éducation dans la banlieue de Rome, avec des enfants qui sont en décrochage scolaire, et c'est un maître qui va utiliser des nouvelles méthodes. Aujourd'hui on pourrait rapprocher ça des écoles Montessori.
Et italienne également.
Ouais. Et donc, avec le réalisateur, en fait, ils mettent en scène l'éducation que ce maître fait à l'école, et finalement, arrive à raccrocher ces jeunes de la rue. Et c'est donc, il y a 4 épisodes. Ça va être une journée. On a appelé ça un dimanche à l'école. C'est le 22 mai. Ça se passe ici, pour le coup, à Orléans, au 108. Dans la salle de projection qu'on utilise ici en C11, et il y aura une entracte entre les 4 épisodes, enfin 2 épisodes, une entracte et puis 2 épisodes, et suivi d'un débat masterclass avec Federico Rossin, et la vente de son livre qu'il a sorti, édité avec les éditions de l'Arachnéen, et qui retrace tout le parcours de cet auteur, c'est Vittorio De Seta.
Oui, c'est en dit long, et puis c'est vrai que ça évoque énormément beaucoup de souvenirs, forcément, parce que là, l'école au cinéma, dans le documentaire, la fiction, c'est un sujet très très bien servi, mais c'est bien également de pouvoir reparcourir ça sous différents angles. Et ça, c'est noté pour le 22 mai, ça donne très envie, hein. Ça, celle-ci, on a très très envie d'en être également, parce que c'est un sujet qu'on n'épuisera jamais, je pense, et puis c'est comme ça touche énormément de spectateurs, j'espère en tout cas qu'il y aura énormément de personnes qui répondront à l'appel, hein. Donc on rappelle, le 22 mai et au 108, les Orléanais, je pense pas que vous puissiez le louper. Si vous n'êtes pas Orléans, bah, pour le coup, viser la rue de Bourgogne, hein, tout simplement, qui est l'artère principale de la ville. C'est beau, c'est une belle métaphore. un peu usée, mais elle est belle. Alors, on va peut-être arriver au mois de juin maintenant, avec les projets suivants, je pense.
Oui, alors, le mois de juin, on participe à un rendez-vous qui est maintenant régulier pour nous, qui s'appelle le cinéma du réel en circulation. Mmh. Donc, c'est des films qui ont été, qui sont passés au Festival du réel à Paris et qui sont mis à disposition par le réseau. Et là, on est sur deux films, un court métrage d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Judith Offray, qui s'appelle Merle Noir, qui explore le chant des oiseaux. Et donc voilà, c'est très mise en scène, c'est presque quasiment une fiction, et justement ça explore ce qui est documentaire fiction, et c'est très très beau sur une jeune fille qui chante et reproduit le son des oiseaux, et un vieil homme qui étudie et voilà, ils entendent tout d'un coup un chant d'oiseau et ils vont partir à la recherche de cet oiseau qu'ils connaissent pas.
C'est génial, hein. On voit que c'est des films qui laissent également beaucoup de place aux spectateurs. Souvent, on a tendance peut-être, alors ça va être une forme de généralité, mais avoir des films très, très bavards. Là, quand des films justement laissent cette place-là, c'est vertigineux même quasiment. C'est des expériences très, très enrichissantes. Hein. On peut vraiment le conseiller pour tous ceux qui nous écoutent. C'est ce type de film, en tout cas, est vraiment génial. On peut peut-être faire un parallèle avec La Tortue Rouge également, qui était très, très bon également là-dessus, dans le rapport à la nature, au monde animal. Donc ça, c'est la première du mois de juin.
Ça, c'est la première du mois de juin. Ça se passe le 7 juin, c'est à 20h. Et donc il y aura ce premier court-métrage de 30 minutes en première partie. Ensuite, il y a un film de Raphaël Grisé et Bouba Touré qui s'appelle, alors je sais pas si je prononce bien, Xarassi Xané. Et c'est un film qui date de 2022. Le réalisateur est décédé avant que le film sorte. Et c'est un film qui retrace l'expérience de migrants qui ont créé en fait une coopérative agricole au Mali sur les bords du fleuve Sénégal, et coopérative agricole qui a enrichi la région, qui a fait que les gens voilà là-bas pouvaient vivre et ne plus partir. Et c'est aussi un très beau film sur la lutte de ces migrants, des foyers de migrants qui se sont battus. C'est un film voilà, qui retrace cette histoire-là dans les années 70. Donc là, il parle de 77 dans son film, et c'est sa propre histoire.
C'est génial, parce qu'on pourrait croire que c'est un combat d'aujourd'hui, quoi. Il y en a énormément encore des communautés qu'on reforme pour justement éviter la déforestation, les avancées du désert notamment. Mais déjà en 77, on voit que les thématiques étaient déjà très présentes, hein. Donc on a plusieurs trains de retard, mais c'est bien également de pouvoir reprendre ça aux sources, évidemment. Des thèmes d'actualité comme ceux-là qui sont très poignants. Là, on est déjà chargé, on voit qu'au niveau des sujets, il y a une vraie complémentarité dans les choix. On arrive à juillet, août, hein, évidemment, avec cette période charnière, parce que c'est vrai que c'est essentiel d'avoir des gens devant les films à cette époque-là. En général, c'est la place où on voit les gros blockbusters qu'on va laisser les salles, c'est très bien pour se divertir, mais il y a également du fond, et ça, c'est également important d'avoir cependant, évidemment, en termes de propositions et de cinéma.
Alors nous, on va se retrouver en août à la Corne des Pâtures. La Corne des Pâtures, c'est une guinguette qui est à Bôle, okay. Donc pas très loin d'Orléans. On aime bien y aller, on y va depuis 2019. On ira avec notre caravane parce que l'année dernière, c'était nos 20 ans. On a acheté une caravane pour pouvoir projeter des films dans la région.
C'est génial, c'est une sorte de cinéma mobile en fait, en quelque sorte.
Ouais, ouais, c'est ça.
Enfin, on peut le faire le parallèle évidemment, parce que c'est vrai que c'est important. Et donc là, vous l'avez et vous pouvez accueillir du monde et directement projeter des films, quoi.
Ouais, alors en fait, la caravane, elle nous sert plus de support, okay. Pour montrer l'univers cinématographique de l'asso.
D'accord.
On montre à l'intérieur, il y a deux petites cabines de projection. Mm-hmm. On montre des films d'atelier et des extraits de films qui ont marqué les membres de l'association depuis 20 ans.
D'accord.
Donc des films documentaires, de patrimoine, des films récents. Enfin, il y a une carte en fait imaginaire qui retrace ce monde cinématographique, et on peut naviguer là-dedans et regarder des extraits. Et puis par contre, on va projeter en plein air, et là on projette deux films qui font partie d'un cycle qu'on a appelé Le son à l'image. Et c'est deux films assez burlesques. Un film de Jacques Tati qui s'appelle Fort Sabastia ou L'île en fête.
Ah ça c'est oui, c'est celui sur l'épopée européenne de Bastia.
Si c'est ça, c'est en fait c'est sur c'est sur le club de Bastia.
Donc Bastia qui arrive en finale de l'UEFA, enfin quelque chose d'assez improbable où les clubs italiens quand ils jouaient contre Bastia pensaient que c'était le stade d'échauffement. Enfin ça c'est absolument dingue et on voit la ville en fête quoi pour le coup dans les années 70.
Voilà, c'est ça. Et c'est au stade de Furiani en plus qui est enfin un stade assez connu. Et c'est assez drôle. Bon, voilà, faut rentrer dans l'univers de Tati. Puis on le connaît pas dans le monde documentaire, mais il a aussi fait des films documentaires. Donc il y a ce premier film là, et ensuite il y a un film d'une réalisatrice lettonne qui s'appelle Laila Pakalnina, qui s'appelle Sur la piste du Rubix. Et là, ça prend son sens à Bâle aussi parce que c'est une piste en fait que les gens font à vélo, qui relie Riga à Jurmala.
Et on avait révisé la géographie de la Lettonie, mais c'est un petit détail.
Mais disons. Enfin voilà, ça prend du sens pour le vélo à Bâle, et c'est aussi tout un travail sur le son, sur les détails des gens en fait, qui font leur footing, qui font du vélo, des trucs assez banals du quotidien. Et il y a tout un côté burlesque aussi et au niveau sonore qui est intéressant. C'est pour ça qu'on a couplé ces deux films-là pour voir l'utilisation du son burlesque dans le documentaire.
Donc ça, c'est encore une fois quelque chose vraiment qui permet finalement d'enrichir la perception des autres films et du cinéma qu'on a en général. C'est vrai que l'usage du son, on l'oublie souvent avec les avancées technologiques dans nos salles modernes. C'est souvent très bien utilisé évidemment depuis les années 70, mais voir cette utilisation là très très proche, c'est important. Puis également rappeler à nos auditeurs qu'il y a toute une bibliographie d'un auteur qui s'appelle Michel Chion, qui est spécialiste du son au cinéma, qui est également très passionnant si vous êtes intéressé par ce sujet-là. Donc on rappelle pour ces deux films-là, donc c'est à la Bâle, et là on est au mois d'août.
Là on est au mois d'août, on n'a pas encore de date précise.
D'accord.
Parce que Bâle, ils sont je sais pas si vous êtes déjà allé à la Corne des Pâtures, mais c'est donc guinguette ligérienne en bord de Loire. D'accord. Et donc c'est une sorte de festival tout l'été où il y a plein d'activités tous les jours de la semaine. On sait que les projections c'est le mardi soir, mais voilà, on sait pas encore donc la date exacte, donc vous pourrez la voir dans notre.
Ce qui est bien, c'est que ça crée déjà une envie, et dès qu'on aura la date précise, évidemment, on partagera. Et puis on viendra évidemment nous-mêmes faire un son. On va arriver au mois de septembre, mais on peut déjà commencer à remplir les agendas pour ces prochaines rentrées ciné. C'est en général un mois assez dense pour les projections. Le mois de septembre, c'est comme la rentrée des livres. Alors qu'est-ce que vous nous avez réservé justement?
Alors nous, on va rester donc jusqu'à la fin de l'année dans le son à l'image. En septembre, on va proposer deux soirées ici au 108. On est encore en discussion sur les films qu'on veut projeter.
D'accord.
On en a plusieurs en tête. Il y aura sûrement un documentaire sonore, sûrement court, d'une trentaine de minutes, donc sans image, en avant-séance, suivi d'un autre film. Voilà, on aime bien les formats courts aussi pour les gens qui n'ont pas l'habitude de ces formes cinématographiques. Donc qu'ils puissent découvrir un peu tout ça. Mais voilà, pour le moment, ça va venir petit à petit, parce que nous, on est un collectif formé de bénévoles, de réalisateurs, de cinéphiles, et donc on construit la programmation collectivement, et ça peut prendre un petit peu de temps.
On peut finir avec ce mot de la fin, justement, pour nos éditeurs. On est donc, il y a une phase de recherche des films. Après, on doit démarcher les ayants droit, les distributeurs, pour pouvoir les programmer. Comment ça se passe?
Oui, c'est ça. C'est ça. On recherche des films, on les regarde ensemble, on en débat. On voit ce dont on veut parler à travers ces films, et puis ensuite on contacte les ayants droit pour avoir les liens des films, on paye les droits, on fait venir aussi des intervenants réalisateurs ou autres, et puis c'est parti.
Allez, c'est parti. En tout cas, il y a des belles envies dès le mois d'avril, mais justement juillet on en a parlé, au mois d'août, septembre ça va se caler, mais il y a déjà beaucoup d'envies de cinéma qui transparaît dans cet entretien là. Un grand merci en tout cas.
Merci.
Ah oui, en plus il coupe court, hein.
Ah oui, voilà. Alors son interview, je ne sais pas comment il a monté son son. Alors merci Romaric pour cet entretien avec Flora Jouvencel. Alors c'est la chargée de programmation de Sans Soleil. Vous pouvez retrouver toutes les infos et bien sûr plus sur le site de Sans Soleil. Alors Sans Soleil, les filles, comment ça s'écrit?
S-E-N-T.
Non, S-A-N-S. Non.
Ah, ben, ça dépend.
Non, mais en fait, là, c'est vraiment pour voir si les profs de français.
Ah non, sans, oui.
Ouais.
C-E-N-T-S-O-L-E-I-L-S.
Ouais, c'est ça.
Org. Merci Fiona. Alors maintenant, un peu de musique de Jones. Alors, c'est comme ça qu'on reconnaît les vieux. D'accord, ils disent Jones. Avec 47 terres, on avait dit. C'est parti.
On n'aura jamais le temps de tout faire. On n'aura jamais le temps de remettre le couvert. Je vais essayer tout un tas de vies que je ne connais pas. Une vie ne me suffit pas, faudrait que j'en tape une douzaine. Je veux d'une vie que j'ai pas connue ou que je connaîtrai jamais. Genre de foot comme Luca Toni ou bien Jamel. J'irais bien casser des gueules si j'étais boxeur. Tester la vie d'Adèle après la vie de bonne sœur. J'aurais bien fait absolument tout ce que j'ai pas vécu. J'aurais bien fait du rap de test mais je connais pas la rue. Ma force de vous écouter au plus j'y plaquette à couper. Je pense que je pourrais faire tourner un terrain dans mon avenue. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça. Je suis jamais content. Je veux essayer cette vie. Je vais essayer celle-là et ça va durer longtemps. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça. Je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là. Souviens-toi, on avait dit, quand on était des types, qu'on ferait une équipe et qu'on irait vers les zénithes. C'est bien parti, on a quitté notre taf. On est prêt pour se barrer. Se barrer. Souviens-toi, on avait dit, quand on était des types, qu'on ferait. On irait vers les zéniths. C'est bien parti, on a quitté nos tables. On est prêt pour se barrer. Se barrer. Pourtant ma vie je l'adore, mais qui me dit que c'est la mienne? S'il y a une vie après la mort, je sais pas si je referai la même. S'il y en a pas, je sais pas si je dois faire attention à ma vie. Est-ce que je meurs dodé dans 10 ans ou je vis jusqu'à 80 piges?
Je pense que j'ai la meilleure vie, mais je peux pas savoir si j'ai tant. Je voudrais des vies à l'infini, au moins je ferai moins d'efforts. J'irai dessiner, faire du ciné, ça me fascinait. Avant de signer, ce qui est décidé, c'est que j'essaierai de les saigner avant ma mort. Dans tous les cas, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Demande à grand-père s'il est vraiment content d'avoir son âge. Célibataire cherche l'amour, l'amour recherche à être seul. On s'habitue trop vite, je ferai toujours partie de ceux qui
auraient voulu faire ci, auraient voulu faire ça. Je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là et ça va durer longtemps. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça. Je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là.
Souviens-toi, on avait dit, quand on était des types, qu'on ferait une équipe et qu'on irait vers les zéniths. C'est bien parti, on a quitté notre table. On est prêt pour se barrer. Se barrer. Souviens-toi, on avait dit, quand on était des types, qu'on ferait une équipe et qu'on irait vers les zéniths. C'est bien parti, on a quitté notre table. On est prêt pour se barrer. Se barrer.
Si on devait faire tout ce qu'on avait dit, on pourrait jamais le faire dans cette vie. C'est ça, on verra plus tard.
Bonjour, je vais vous présenter.
Elle est tellement pressée. Qui est là. C'est formidable. Elle nous laisse pas le temps de nous poser. Alors, de retour sur Vague FM avec Sullivan Omed. Toujours prêt, Sullivan, toujours à l'écoute.
Toujours. Moi, j'attends. Bien.
On va prendre des nouvelles de la web radio du collège Victor Hugo de Puiseaux avec Graziella et Fiona.
Bonjour.
Bonjour.
Alors. Est-ce que, depuis la dernière fois où je vous ai vu, hein, je vous ai vu au mois de septembre pour faire un reportage, c'était le tout début, c'était le premier jour d'enregistrement, j'insistais à aller au début, et vous faisiez ça de manière très professionnelle, j'ai trouvé.
Merci.
Là, vous rigolez, mais de manière très pro, et j'étais vraiment étonné que ça marche aussi bien, que vous soyez aussi investi. Vous ne coupiez pas la parole, il y avait de. Voilà, faites ça avec sérieux. Alors, vous avez fait combien d'émissions depuis?
Une tous les mois, quasiment. Donc,
ouais, même peut-être même plusieurs fois. Ouais. Enfin, des fois, il y avait des fois où c'était plus de 3, mais d'autres fois où on n'en avait pas fait autant. Enfin, ça dépend. Je ne sais pas exactement le nombre.
Du coup, ça vous a demandé pas mal de boulot, là. Il faut être prêt.
Oui, en général, on prépare les émissions sur 2-3 séances. Ouais. Et après, du coup, on enregistre.
D'accord. Et l'audience, alors? Est-ce qu'on vous reconnaît? Est-ce qu'on vous écoute au collège? On vous dit, mais ouais, c'est bien ce que font les...
Ouais. C'est déjà apparu dans plusieurs journaux de Puiseaux.
Ouais. Vous signez pas encore d'autographe?
Non, pas encore.
Ça serait pas mal pourtant.
Oui.
Bon, les filles, merci. Maintenant, avant de commencer, je vous rappelle quand même quelques règles qu'il va falloir respecter. Alors, c'est pas moi qui vais vous les rappeler, c'est Grou. Vous allez l'écouter, il va vous le dire.
Comme vous pouvez le voir, je me suis procuré tout le matériel nécessaire à l'élevage d'enfants. Ok, donc, comme je dis...
Il y a quelqu'un qui a cassé ça, là.
Ça va. Nous allons établir un règlement. Règle numéro 1. Vous n'avez pas le droit de toucher à quoi que ce soit.
D'accord. Même pas le sol?
Si vous pouvez toucher le sol.
Même pas l'air?
Si vous pouvez toucher l'air.
Même pas ça?
Où est-ce que tu l'as pris?
J'ai trouvé.
Bien. Règle numéro 2. On n'a pas le droit de me déranger quand je travaille. Règle numéro 3. Pas le droit de pleurer, de chouiner, de rire, de ricaner, d'éternuer, de rôter ou de péter. Bref, aucun petit bruit énervant. Compris?
Est-ce que ça, c'est un bruit énervant?
Oui, très.
Bon, les filles, vous avez bien compris?
Oui.
C'est bon? Parfait. Alors, Graziella?
Oui.
T'es sur le grill, là, pour le coup. Tu vas nous parler d'un film, nous, qu'on adore dans notre émission. On lui a consacré déjà plusieurs rubriques, voire des émissions entières. Donc ça te met la pression, là.
Oui.
Je vous invite à aller voir dans les podcasts consacrés aux films de requins, dans la plusieurs. À ce propos, je fais un coucou à Arnaud, qui est un grand admirateur de l'acteur principal de ce film, Roy Scheider. Donc coucou Arnaud. Bref, Graziella, on t'écoute.
Et bah,
parler de quoi?
De tout.
De tout.
C'est...
On est là pour ça, vas-y.
Les Dents de la Mer est un film américain qui a été réalisé par Steven Spielberg. Il a été adapté d'un roman qui... Le roman est sorti en 1974. Et son titre principal, c'était Raw, qui voulait dire les mâchoires en français. Il a été, du coup, le livre a été écrit par Peter Benchley et publié par Peter Benchley en 1974. Du coup, les acteurs principaux de ce film, ce sont Rose Spider, Richard Dreyfuss, oui. Robert Shaw, Lauren Gary et Murray Hamilton.
Comment t'as découvert ça, en fait? Comment t'as découvert ce film?
Ce film, c'est mon père qui me l'a fait découvrir. Ouais. Voilà.
Alors, de quelle manière? Est-ce qu'il le possédait dans une DVD tech chez lui?
C'est exactement ça.
C'est ça?
Oui. Ouais.
Est-ce que alors, parce que moi, j'ai une petite anecdote, parce qu'on est en anecdote. J'ai un fils aussi qui est un peu plus jeune.
Et ça de...
Qui a 11 ans et qui fait le tour à chaque fois des DVD et qui me demande ça je peux le voir. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Ou il t'a dit directement viens, faut que je te montre un film?
En fait, ce jour-là, on devait regarder un autre film, mais en fait, il a été adapté au moins de 16 ans, il me semble. Du coup, on ne l'a pas regardé. Et en fait, j'ai dit je veux voir Les Dents de la Mer.
Ouais.
Voilà.
T'es au courant que Les Dents de la Mer, c'est interdit au moins de 12 ans?
Oui. Mais ça faisait longtemps que je voulais le voir. Ouais. Donc c'était l'occasion de le regarder ce soir-là.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans Les Dents de la Mer? Pour l'instant, on n'en a pas parlé, vas-y.
C'est l'histoire d'un grand requin blanc qui est mangeur d'hommes et qui attaque les baigneurs de la station balnéaire de la côte est des États-Unis et qui, du coup, contraint le chef de la police locale, qui est Raoul Spider, et ils vont aller le chasser à l'aide d'un biologiste marin, Richard Dreyfuss, et un chasseur de requins, qui est Robert Shaw.
C'est ça.
Et du coup, alors bah, ces acteurs-là, c'est des acteurs assez mythiques hein, du cinéma. Si je ne sais pas si tu en as parlé, mais Robert Shaw, il est le chasseur.
Hein, oui.
Il est déjà apparu dans un James Bond. Il fait l'antagoniste de James Bond, donc le méchant, dans Bon Baiser de Russie.
D'accord.
Il est dans la bataille des Ardennes. Il fait un colonel nazi assez méchant, comme n'importe quel colonel nazi à la limite.
Oui.
Bon, évidemment, ce rôle-là, celui de Quint dans Les Dents de la Mer, c'est son rôle le plus célèbre. Alors, comment tu as vu ça? Est-ce que ça t'a fait frissonner? Est-ce que t'as eu peur un petit peu ou pas?
Oui, un petit peu, ouais. Oui. Surtout le fait de ne pas voir le requin de ne pas beaucoup le voir à cause de soucis techniques, c'est assez particulier. Et quand on entend cette musique arriver, qui est une musique emblématique de ce film, c'est stressant parce qu'on sait qu'à un moment on va le voir arriver et qu'en fait. On le voit pas tout à fait parce que justement à cause des soucis techniques et du coup ouais, c'est assez frissonnant, assez stressant de ne pas voir le requin en entier. Ouais.
Et tu sais que si tu as sur le DVD, je sais pas si tu t'intéresses un peu au film après, je vois que si il y a des documentaires sur le film qui racontent en fait pourquoi comme tu l'as dit le requin est peu présent parce que au début Spielberg il voulait le montrer beaucoup plus. Mais il y a beaucoup de soucis techniques et du coup ça faisait pas très réaliste et il a choisi de le montrer le moins possible après.
C'est ça.
Et donc du coup on est dans la première scène. On va pas déflorer un film de 1975 quand même.
Oui.
Je pense que les spoilers c'est fini. Hein. La première scène, on voit juste un aileron et la jeune femme qui se fait croquer et balancer de gauche à droite.
C'est ça.
Et on est très 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 stressé alors qu'on voit rien.
C'est ça, justement, pour la suite du film, c'est ça encore. À chaque fois qu'il croque quelqu'un, on voit pas, on voit juste soit l'aileron, soit la queue, soit une autre partie de son corps. Et c'est ça, je pense, qui aussi fait stresser les gens.
Et alors, comment t'as ressenti tout. Est-ce que tu en veux vraiment au requin?
Un petit peu, mais
est-ce
bon.
Quand tu vas à la plage.
Oui, c'est oui, mais après, oui et non, parce que comme on sait que les requins, c'est aussi. Ils croquent les gens pour goûter, comme si c'était pour goûter, en fait, leur nourriture. Donc, et après, en France, il n'y a pas forcément de requins non plus, donc c'est moins stressant.
Ils ne sont pas spécialement agressifs.
Oui, voilà.
Il y a quand même moins de chances de se faire. J'allais dire bouloté par un requin que des accidents de rhinocéros ou d'hippopotame.
Oui.
Il y a plus de morts, hein, ça, on le sait pas, mais il y a plus de morts dues à des hippopotames qu'à des requins.
C'est surtout que les requins ils mangent des planctons de base. C'est surtout qu'ils mangent.
Alors s'ils mangent des planctons, ça va devenir des requins véganes.
Ouais, mais
du coup ils vont perdre un peu de poids.
La plupart des requins mangent ça de base.
Voilà. Hein. Mais effectivement le grand blanc c'est un requin carnivore. Et donc du coup, alors, est-ce que tu sais que le film a plusieurs suites?
Oui.
Est-ce que tu as vu ces suites ou pas?
Alors non, pas encore.
Non.
Non.
Je te conseille le 2.
Ouais.
Qui est encore dans la veine du premier. Je conseille moins le 3 pour vous. Qui est moins bon. Qui est beaucoup moins bon. Qui est plus de l'exploitation du phénomène, quoi.
Oui.
Tu sais que ça a aussi déclenché pas mal de frayeurs.
Oui, tout à fait.
À l'époque de la sortie, il y a beaucoup de gens qui voulaient pas aller l'été d'après se baigner aux États-Unis.
Ouais, c'est.
Et c'est aussi le premier film qu'on considère comme étant un blockbuster. Oui. C'est-à-dire un film qui littéralement fait exploser le bloc.
Oui.
C'est-à-dire que ça génère tellement d'argent. Il faudrait regarder là, mais avec la conversion en dollars de maintenant, on est presque à proche de 800 millions de dollars de recettes. Donc c'est très impressionnant. Alors combien de planches de surf sur 10 tu mets à ce film?
9,5.
C'est bien, on adore ce film, donc on est vraiment d'accord avec toi pour le coup. Est-ce que tu le conseilles?
Oui. Ouais. Oui, oui, oui.
même à des plus jeunes.
Non. Ça dépend de leur sensibilité aussi, je pense, parce que, enfin, il fait quand même assez peur d'un côté. Après, quelqu'un qui va regarder beaucoup de films, pas effrayants, mais un petit peu quand même, peut-être oui, le regarder. Après, pour des gens très sensibles, vaut mieux pas éviter, mais bon, faire gaffe à le regarder, quoi. Ah,
bah écoute, c'est très sympa. Nous, on le conseille vivement aussi. Après tout ça, on a eu des fortes émotions. Ça serait bien de se faire une petite pause musicale bien méritée. Oui. T'es pas d'accord?
Je te suis.
Alors c'est parti.
Ça vient.
Quoi?
Ce truc-là, sur votre bras.
Ah, ça? Un tatouage, j'ai voulu le faire enlever.
Je sais ce qu'il y avait. Je sais ce qui était marqué. Maman. Où t'as eu ça?
De toi à moi, c'est quand j'étais sur le cuirassé Indianapolis.
Vous étiez sur l'Indianapolis? Qu'est-ce qui s'est passé, juste?
On rentrait d'une mission dans l'île de Tinian où on avait livré une bombe, celle d'Hiroshima, la bombe.
1100 marins à la barrière.
Tout à coup, un 4 mètres, vous savez comment ça s'évalue quand on est dans l'eau? À ce qui sépare la membrane dorsale de la queue. Si vraiment il s'incruste, alors là, attention. Et il vous regarde droit dans les yeux. Et je vais vous dire, moi, ça a des yeux sans vie, sans rien. Une paire d'yeux tout noirs, des yeux de nounours. Lorsqu'il s'approche de vous, le requin, il fait pas vivant. Jusqu'à ce qu'il vous happe. Là, ses petits yeux noirs, ils deviennent blancs. Et alors, on entend ce cri terrible qui vous perce le tympan. Et l'océan est tout rouge. Et malgré qu'on se débatte, qu'on gueule et qu'on hurle, ça grouille de partout. Et ça vous met en pièces.
Alors là, vous avez, on a un petit interverti les sons. Ce que vous avez entendu, c'est le monologue du capitaine Quint, qui raconte comment il a survécu lui-même à des attaques de requins. Ça se passe juste avant, bon, dans les trois derniers quarts du film. Est-ce que tu sais que l'acteur Robert Shaw qui fait ce monologue, en fait, il a réécrit en partie le monologue sans que les autres acteurs soient au courant?
Et ben,
et voilà, c'est pour ça que dans le film, ils ont l'air aussi étonnés et intrigués. Ils boivent ses paroles parce que eux, ils n'avaient pas le texte. Donc du coup, il a fallu qu'ils improvisent aussi un petit peu. Voilà.
Et ben non, je ne le savais pas.
Quand tu le reverras d'une autre façon.
Ouais, c'est ça.
Allez, on se fait une petite pause musicale bien méritée. Parti, Sullivan.
To go to sleep when I got you next to me. Next to me.
qu'elle chante plus. Elle chante plus, la petite dame, on a que le bruit de fond.
Ah, mais c'est beau ça.
Du coup, on peut parler sur le bruit de fond.
Ah bah, du coup, bah, oui, c'est ce qu'on peut faire. Allez, on est de retour. C'est parti, de retour en studio. Vous êtes bien sur Vague FM avec Gratila et Fiona, nos chroniqueuses de la web radio du Collège Victor. Hugo de Puiseau. Allez, Puiseau.
Allez, Puiseau.
Et Sullivan, le maître des potards ce soir.
Ah ouais,
hein, le maître des potards, ça... hein, le maître des potards, ça le fait. Je savais. Alors, après avoir frissonné avec Graziella et son requin mangeur d'hommes, pensez-y cet été quand vous vous baignerez en Bretagne. Fiona, tu vas carrément nous annoncer la fin du monde. Les enfants d'aujourd'hui, nous, c'était pas ça. Hein. Notre époque, on regardait des dessins animés, on peut regarder des films de grands, c'est bien ça. Moi, j'aime bien. Alors, Fiona, de quoi tu vas nous parler?
Alors, le film que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, il s'appelle Dans le Coop. C'est une comédie satirique avec une touche de science-fiction. Et le film est sorti en décembre dernier sur la plateforme Netflix. Il a été réalisé par le réalisateur américain Adam McKay. Et le film y réunit beaucoup d'acteurs célèbres, dont Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio dans les personnages principaux, mais aussi Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet et même la chanteuse Ariana Grande. C'est l'histoire de deux astronomes américains, Kate DiBiase, incarnée par Jennifer Lawrence, et Wendell Mendy, joué par Leonardo DiCaprio. Ils découvrent une immense comète de 6 à 9 km de diamètre qui va entrer en collision avec la planète Terre. Si rien n'est fait, elle va éradiquer l'espèce humaine. Après avoir fait cette choquante et effrayante découverte, ils en informent la présidente des États-Unis, Janie Olin, incarnée par Meryl Streep. Celle-ci ne prend pas la menace au sérieux et propose de patienter et aviser après les élections de mi-mandat. Les deux scientifiques décident alors de se tourner vers les médias. Ils sont invités sur une chaîne d'infos et expliquent l'urgence de la situation. Mais les présentateurs, qui aiment davantage faire du divertissement, présentent l'information comme une plaisanterie. Il reste alors 6 mois pour agir. Dans le Coop, le titre du film veut dire en français « Ne regardez pas en l'air, ne faites pas attention à la menace qui pèse sur vos vies, ignorez-la ». Ce film est une parodie des films catastrophes. La comète qui menace la Terre est en effet une métaphore du plus grand danger qui menace nos vies actuellement, la crise climatique. La présidente, incarnée brillamment par Meryl Streep, est une caricature de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, connu pour être un climato-sceptique. Le gouvernement américain va-t-il réussir à dévier la comète? Vont-ils réussir à sauver l'humanité? Les gens vont-ils enfin lever les yeux? Il vous faudra regarder le film pour le savoir. Mais...
Ah, c'est très bien vendu. Alors là, pour le coup, on a vraiment envie de savoir. C'est très bien ça. Comment tu as... J'ai la même question qu'à Gradiella. Comment tu as découvert le film? Parce que sur Netflix, pour le coup, si tu es déjà abonné, je pense que oui. Généralement, on reçoit des notifications pour nous dire vous avez des nouveaux films, il y a des nouvelles séries, ça va vous intéresser. Finalement, c'est un algorithme qui choisit pour vous le film que vous allez voir. Est-ce que ça s'est fait comme ça? Est-ce que tu as zappé avec ta télécommande en me disant celui-là, je veux le regarder?
Moi, c'est mes parents qui m'ont dit il y a un nouveau film qui va sortir. Et donc, du coup, on s'est dit on va le regarder.
Ouais. Et tu as regardé ça quand, toi? Quand il est sorti, là, fin décembre ou...
Je crois que c'était au Nouvel An même qu'on l'a regardé.
Sacré encouragement pour l'avenir.
Voilà.
Et du coup, ça t'a... Alors, est-ce que ça t'a plu pour...
Oui, j'ai vraiment aimé parce qu'il y a un message aussi dans le film qui est est-ce qu'on va regarder autour de nous et agir face à la crise climatique qui menace nos vies, ou est-ce qu'on va juste l'ignorer et attendre que la situation soit irréversible? Et en plus de ça, il y a beaucoup d'action, beaucoup de suspense et les acteurs sont excellents, donc ça fait de lui un très bon film.
Ouais, moi aussi je trouvais que c'était une très 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 bonne idée. En plus, il n'y a pas trop d'histoires d'amour un peu bébêtes auxquelles on s'attend. On aurait envie de voir les personnages principaux ensemble, sauf que c'est clairement dit que ça se fera pas dans le film. Et c'est plutôt sain, et c'est plutôt bien justement d'évacuer ça. Et du coup, moi, ce que j'ai vu aussi dans le film, moins encore que la crise climatique, c'est tout l'univers de la télé. Des réseaux sociaux.
Oui, ça aussi.
Ça vous fait... Alors, Moi, je parle d'un ancien de 42 ans bientôt, ou qui a connu le début de l'Internet, pour le coup. Vous êtes dedans, ouais. Vous êtes dedans, quoi. Vous n'avez pas le choix, quoi. Vous devez vous adapter, quoi.
Ouais. Hein?
Moi, mes parents, quand ils me parlaient, ils me disaient, je connais le début de la télé. Moi, c'était pareil pour moi, quoi. Et comment vous le prenez, là? Est-ce que ça te fait pas un petit peu réfléchir sur le fait de savoir comment utiliser ces réseaux, comment y prendre attention? Est-ce que je dois l'utiliser tout le temps? Quel crédit je dois porter à ça?
Bah si, bien sûr, parce que du coup, dans le film, à un moment, ils vont sur les médias, et après, en fait, tout le monde les prend pour des fous. Sur les réseaux sociaux, ils postent des commentaires négatifs, ils font même des mèmes. Oui. Donc, ça prend une grande ampleur à cause des réseaux sociaux.
Ouais, et du coup, ça te... Alors là, on parle sous le contrôle de papa, au fond. Est-ce que tu es... moi, je vais poser la question comme ça directement. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux, pour le coup?
Pardon?
Est-ce que tu es, toi, présente sur les réseaux ou pas?
Présente, c'est un grand mot.
Est-ce que tu... est-ce que tu te fais des plages horaires en te disant, je vais regarder ce qui se passe ou pas?
Non, enfin, en fait, moi, j'ai juste des réseaux sociaux pour parler, enfin, des réseaux sociaux de messagerie.
Ouais.
Mais j'ai pas... Enfin, je regarde pas les...
Tu regardes pas l'instagrammeuse mode qui fait des tutos maquillage?
Non, voilà, non.
Non, mais voilà, c'est ça. C'est aussi ça qui, je pense, dans le film, moi, c'est ça qui m'a marqué encore plus que le fait qu'on regarde ailleurs. Effectivement, quand on a connu Donald Trump, c'est évident on se dit qu'on n'est pas passé loin. Qu'on a eu de la chance que finalement l'Amérique se soit réveillée et réélu peut-être pas le bon mais quelqu'un de différent pour le coup. Moi c'est les réseaux sociaux qui m'ont marqué dans ce film. Je me suis dit si la télé c'est comme ça, faire que des blagues sur des choses où vraiment la seule personne qui dit quelque chose de sensé, elle est attaquée.
C'est ça, parce que en fait ils voulaient pas voir la vérité en face, ils voulaient pas les croire parce que ça leur faisait peur, et donc du coup ils se sont déferlés déchaînés sur eux au lieu de les croire, alors que pourtant ils avaient des chiffres et des preuves de ce qu'ils annonçaient.
Et même si on va pas trop spoiler, mais même à la fin ils s'en rendent pas compte finalement. Il n'y a pas vraiment de mea culpa ces gens-là. Ils préfèrent boire des coups plutôt que de se dire on aurait dû faire autrement.
Ben voilà.
Alors, combien de rochers en fusion sur 10 tu mets à ce film?
Je veux dire 9,9 pour pas dire 10. Je sais pas.
Alors, très bien noté les films ce soir. Du coup, là, on vous les conseille plus que jamais. Hein.
Ouais, bien noté, mais tu vois, j'en ai entendu beaucoup parler de Don't Look Up. Il est passé aussi sur Fun Radio quand on fait l'éloge pour les citer, sur beaucoup de grandes stations aussi. Et j'ai toujours pas été le regarder. Et elle l'a bien vendu parce que du coup, c'est vrai qu'il va falloir que je me le mette très vite dans ma liste des favoris Netflix pour le regarder. Parce que l'envers du décor d'Instagram, tout ça, je trouve qu'on est vraiment dans l'air du temps actuellement. Parce que j'ai l'impression. En jeune qui a connu aussi le début des réseaux sociaux à l'heure actuelle, j'ai vraiment l'impression qu'on nous cache des choses à l'heure actuelle justement sur les réseaux et compagnie. Donc je vais aller me plonger dedans là.
Super.
Merci
Fiona.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Merci.
C'est un vrai plaisir. On n'a pas fini, attention. Hein. Maintenant, on passe à quelque chose qu'on avait déjà mis en place avec il y a quelques années. C'est la Critique Express. C'est une Critique Express. Vous pouvez nous envoyer ça sur la page de l'émission et on les diffuse. Donc vous regardez des films qui vous plaisent, qui vous plaisent pas. Vous nous dites pourquoi, comment. Et on les diffusera. C'est 10. Alors c'est parti. Ce soir, c'est Tristan qui va nous parler d'un film qui a 25 ans. Le cinquième élément.
Bonjour. Alors Tristan, tu as
13 ans.
Et Émilie, tu as
8 ans.
Donc nous avons vu Le cinquième élément avec Bruce Willis et je voulais savoir ce que vous en avez pensé déjà.
Franchement, moi j'ai beaucoup aimé.
Il était très bien.
Alors Tristan, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire?
Oui, c'est les aliens qui sont allés récupérer les 4 éléments sur la planète Terre, qui sont 4 roches, qui vont permettre de faire un rituel plus tard dans le film par le héros, Bruce Willis. Mais pour ce rituel, il fallait le cinquième élément. Et en fait, ce rituel, à quoi il va servir? Bah, il va servir à arrêter une météorite qui va arriver sur la Terre. Mais pour ce rituel, il faut le cinquième élément, qui est une fille qui a été créée par, par les militaires, et qui est le cinquième élément, et donc qui va arrêter la météorite qui allait exploser la planète.
D'accord. Et est-ce que tu as une scène préférée dans le film?
Oui, c'est celle sur le bateau, donc sur la planète...
Frostone Paradise.
Oui, j'ai à peu près tout aimé. Par exemple, quand il y avait l'opéra et donc les scènes d'action, il y avait le monsieur qui était très drôle.
Ah, l'animateur, oui. Ouais, Chris Tucker, qui dit toujours oui. Supergreen.
Voilà.
Et toi, Emily, qu'est-ce qui t'a plu le plus comme scène?
Franchement, moi, c'était à l'opéra, il y a eu une chanson et à un moment, il y a du rythme.
Alors en fait, tous les deux, c'est la même scène qui vous a le plus plu, où il y avait plusieurs scènes qui se mélangeaient en même temps. On voyait plusieurs endroits différents et avec la musique, c'était très rythmé. Il y avait des combats, il se passait plein de trucs.
Oui.
Ouais, c'est vrai, c'est une chouette scène. Et du coup, est-ce que ce film, vous le recommandez? Parce que c'est déjà un vieux film, mine de rien, alors.
Oui, il a pas vieilli dans le temps.
Les effets spéciaux sont bien?
Oui, ils sont bien.
Et donc on y croit? Alors l'amour peut sauver du mal?
Oui.
Bah oui, parce que le cinquième élément, il est déclenché parce qu'il lui dit qu'il l'aime.
Bah oui.
Oui, j'avais compris.
Bon, bah si tout le monde a compris, c'est bien. Et alors donc sur combien vous donnez de graffiti à ce film sur 10? Bah dites chacun le vôtre et puis...
9 graffiti.
Ah, oh, très bonne note. Et toi, Emily?
Moi, je mettrais 9 graffitis sur 10.
Donc, c'est une note unanime de 9 graffitis sur 10 pour le cinquième élément avec Bruce Willis de Luc Besson. À bientôt!
À bientôt!
Eh ben, merci Tristan et Juliette et Émilie. Alors maintenant, on va passer à la deuxième critique d'un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Le secret de la cité perdue. Et c'est Émilie qui va nous en parler, une critique express.
Bonjour Émilie, alors aujourd'hui on est allé voir Le secret de la cité perdue avec Sandra Bullock et Channing Tatum. C'était bien?
Oui, c'était très marrant surtout.
Et t'as des choses à dire? Enfin, peut-être raconte-nous un peu l'histoire.
L'histoire, je serais pas trop là à bien la raconter, mais en gros, c'est une écrivaine qui se fait kidnapper pour faire son histoire qu'elle a écrite, mais dans la vraie vie.
D'accord.
Et du coup, il va lui avoir plein de péripéties, notamment qu'il y a une petite histoire avec un certain Alan, mais je ne vais pas spoiler.
D'accord, Alan, c'est qui? C'est le mannequin qui est sur les couvertures, normalement, c'est ça?
C'est ça.
Donc, c'est pas du tout un héros?
Non, pas du tout.
C'est pour ça que ça fait des péripéties.
Oui, et surtout... Je vais pas trop spoiler, mais il est très marrant.
Il est très marrant, d'accord. Et alors, il y a des beaux gosses dans le film?
C'est sérieux?
Bon, bah non, alors, visiblement. Et du coup, est-ce que tu le conseilles à nos auditeurs? Ceux qui écoutent l'émission de radio, auditeurs.
Oui, je conseille fortement.
Fortement?
Oui.
Pourtant, dans la voiture, tu m'as dit que t'étais un petit peu déçue quand même, que t'avais trouvé ça un petit peu long.
J'avoue, c'est vraiment... Il y a vraiment... Ça aurait été plus encore mieux si...
Parce que...
Il y a des moments, tu t'ennuies quand même, mais franchement, c'était fortement génial.
Fortement génial. Alors, combien de graffitis tu mettrais à ce film?
On va baisser d'un cran, on va mettre 9 graffitis sur 10.
9 graffitis sur 10, bon, encore une bonne note quand même.
Oui.
À bientôt, Émilie.
À bientôt.
Eh ben, merci, Émilie, super. Alors, fortement génial, ça, on va garder ça. Hein, fortement.
Ils sont gentils, les jeunes.
Ouais, ils sont gentils, les jeunes. Fortement génial. Je sais pas s'il y a à dire à ça, pareil, dans 10-15 ans, quand on le reverra, se dire, c'était peut-être pas si fortement génial que ça. Bon, ben, du coup, on arrive à la fin. Hein, il n'est point de bonne compagnie qui ne se quitte.
Je suis désolé. Bien, merci Luffy, c'est très bien. Graffiti Cinéma, c'est fini pour ce soir. Alors on remercie Graziella et Fiona pour leur participation à l'émission. Merci les filles.
Merci à vous d'avoir écrit.
Un énorme merci à Sullivan, le roi des manettes, qui a une nouvelle fois assuré ce soir.
Ah ouais, il faut oublier de remplacer le boss, il a décidé qu'il ne viendrait pas. Hein.
Voilà, mais oui, mais quel feignant. Alors, Romaric n'était pas là, c'était pour la bonne cause. Il enregistrait avec les critiques lycéens au Carme un reportage que vous aurez bientôt.
Voilà. Mais comme nous on est méchants et qu'on a envie de dire qu'il n'est pas là parce que c'est un feignant.
Du coup, on le dit, les absents ont toujours tort.
Hein. Exactement. Ouais.
Alors, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Vague pour une émission de circonstances, puisqu'elle sera consacrée à Jeanne d'Arc au cinéma pour les fêtes joanniques à Orléans. On se quitte en musique avec Time Cop 1983.
Bisous.